Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAE.
Donc les images photographiques, filmiques, cartographiques, les dessins et les autres représentations visuelles peuplent de plus en plus les recherches architecturales et urbaines sur le sensible. Et donc cette table ronde, elle propose d'explorer comment est-ce que ces images produites sur les terrains d'enquête ou à partir des terrains d'enquête, comment est-ce qu'elles permettent de comprendre peut-être de façon singulière les territoires investigués et leurs ambiances. Et à partir d'exemples de recherches en cours, qui donne chacune la part belle aux images, nous allons nous intéresser au processus de captation de ces images, à leur spécificité et aussi à leur efficacité. Donc nous verrons comment, en dernier temps, ces images permettent aussi peut-être de partager autrement les données de l'enquête auprès d'un public plus large que le public académique. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir quatre intervenantes et intervenants. Benjamin Bocan, qui est ingénieur à Centrale Nantes et doctorant en sciences de l'ingénierie et des systèmes au laboratoire Créneau, pour une intervention qui s'intéressera à la perception visuelle de la ville par le piéton grâce à la vision par ordinateur. Missia Forlen, qui est architecte et doctorante dans le cadre du dispositif Radiant, recherche en art, design, innovation, architecture en Normandie, au laboratoire ID Le Havre, et pour une thématique qui travaillera plutôt l'approche filmique et cartographique pour donner à voir et à entendre des espaces qui sont la plupart du temps invisibilisés.
Et puis en ligne, Lorraine Gomez, qui est architecte doctorante en architecture, qui contribue à la chaire Digital RDL et qui est donc au laboratoire AU Cresson. Son intervention portera sur représentation graphique pour un usage critique et projetatif. Et puis Cyril Setten, qui est présente avec nous, urbaniste géographe et doctorante en aménagement de l'espace et urbanisme au Créneau. Son intervention s'intitulera « Carte sensible, une méthode d'enquête et un outil d'analyse des représentations de données qualitatives perceptives ».
On avait changé le titre.
Le titre avait changé.
Oui. Mais non.
Tu me reprécises.
C'est celui qui est du coup sur la slide. L'outil de carte sensible comme médiateur entre la matérialité de la ville et sa perception. Pardon.
Aucun problème.
Donc on s'est donné comme consigne d'échange trois questions qu'on va aborder les unes après les autres en traversant en fait vos matériaux, vos images. Pour répondre chacune à l'une de ces questions. Et donc, en termes de consignes temporelles, ce serait bien, vous avez plus ou moins 5 minutes par personne et par question, avec des petits ajustements. Donc la première question, c'est à quel type d'image est-ce que vous avez recours dans le cadre de vos recherches? Et pourquoi? Et en essayant en prenant le parti de commenter deux images, deux exemples issus de vos travaux. On propose de commencer dans l'ordre du programme par Benjamin.
Très bien. Alors, on peut peut-être montrer la première image que j'avais.
Tu les vois là aussi.
Ok, ça c'est une vidéo, c'est la vidéo.
Alors, la vidéo, ouais.
Ok, donc en fait, moi les images que j'utilise la matière première que j'utilise, c'est des images 360 qui sont captées dans la ville. Alors, ce n'est pas des images que je capte moi-même, c'est des images qui sont captées souvent par soit des usagers de la ville qui peuvent les uploader sur des sites comme Mapillary, qu'on peut tous connaître, et sinon des images de Google Street View, donc captées par des voitures qui passent dans la ville régulièrement et qui capturent des images à 360 degrés. Donc là, c'est une image qu'on voit à 360, on la fait défiler, et comme ça, on peut voir tout autour de nous. Donc ce type d'image-là, moi, je l'utilise parce que ce que je cherche à faire dans ma thèse, c'est qualifier la ville du point de vue de la perception visuelle d'un piéton qui se promènerait en ville. Et donc, en fait, ces images-là, moi, c'est un moyen de voir la ville du point de vue d'un piéton. Alors, d'un point de vue qui se rapproche le plus possible du piéton, parce que la plupart du temps, les images que j'utilise, en fait, elles sont prises par des voitures, et donc on a un point de vue un peu décalé, mais on a quand même souvent une hauteur de vue qui est à peu près celle du piéton. Les voitures passent dans la rue en journée comme un piéton pourrait le faire. Et puis, on a des images en couleur qui se rapprochent de ce qu'on pourrait voir, en fait, quand on reprojette ces images-là dans la ville. Contrairement à d'autres qui pourraient utiliser des images avec de l'infrarouge ou de la profondeur, pour moi, c'est que des images monoscopiques en couleur qu'on représente comme ça. Et donc, on peut peut-être passer au visuel suivant. Une fois qu'on stocke cette image, ça ressemble à ça. Ça s'appelle un écueil rectangulaire. Et donc ça, c'est de l'image projetée comme on projetterait la carte du monde à plat. Donc c'est pour passer d'une sphère à un rectangle. Et donc ça, c'est ma matière première. C'est les images que j'utilise. Et j'utilise ces images-là dans deux contextes différents. Le premier, c'est pour les montrer à des participants, donc pour leur montrer des lieux, soit qu'ils connaissent, soit qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, c'est une manière pour eux de se plonger dans un lieu, soit en le découvrant avec cette image-là, soit en faisant appel à leur mémoire. Et donc, c'est pour stimuler la mémoire plutôt de montrer cette image-là. Et le but ensuite, c'est de récolter l'avis des participants quand ils voient cette image-là sur des questions. Les questions classiques, c'est est-ce que ce lieu vous semble sécurisant ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un lieu qui est dynamique ou ennuyant ? Ce genre de choses. Et donc l'image dans ce premier mode-là, c'est pour récolter cet avis-là. Donc, il y a un troisième visuel qui peut évoquer ça. Ça, c'est voilà. C'est ce qu'on peut trouver sur des plateformes de crowdsourcing, donc de collecte participative de données. Et ça, c'est les tâches classiques qu'on peut demander aux participants. Donc là, en fait, on voit qu'on a pris seulement un bout de l'image 360, donc juste une petite fenêtre découpée dans cette sphère, et on en présente deux aux participants en lui demandant de comparer des lieux grâce à ces images-là. Et la deuxième utilisation que j'en fais, c'est via des modèles de deep learning, donc en fait des IA, qui vont traiter ces images-là automatiquement et apprendre à partir des avis des participants à prédire cette perception au niveau de la ville. Le but étant d'ensuite pouvoir appliquer ces IA-là à tout un tas d'autres images qui n'ont pas été notées par des participants pour avoir une qualification à l'échelle de la ville, d'une métropole et de plein de villes du monde entier. Et donc en fait, ces images-là, après quelques transformations, elles peuvent être données à des algorithmes en centaines, milliers, voire dizaines de milliers pour qu'ils arrivent à apprendre à partir des avis des participants. Et donc là, c'est une deuxième utilisation des images qui est dans le domaine de la vision par ordinateur et donc là, qui est traitée comme de la donnée et non plus comme une image qu'on pourrait interpréter en tant que participant pour se replonger dans un lieu. Voilà.
J'ai oublié cette slide-là. Je sais pas si tu...
Ah oui, donc ça, c'est un des résultats qu'on peut obtenir avec les images. Une fois qu'on a une IA entraînée, on peut lui donner toutes les images dont on dispose d'une ville. Et ça, c'est un travail qui a été fait par une équipe en Chine qui a cherché à qualifier, je crois que c'est la ville de Pékin, avec toutes les images qu'ils avaient le long donc, des routes, le plus généralement, vu que c'est des voitures qui collectent ces images-là. Et à partir d'une IA entraînée, ils ont sorti ce genre de carte pour identifier les zones qui étaient perçues le plus positivement, le plus négativement, suivant certaines qualités. Donc ça, c'est une des sorties qu'on peut attendre des algorithmes entraînés avec ce genre de données.
En fait, après, c'est Laurine. J'ai l'ordre, c'est des prénoms. L'ordre alphabétique des prénoms, finalement.
C'est bon, vous m'entendez ?
Super.
Ok, bah bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, ici, sur cette première diapositive, je vous présente les deux photos que j'ai souhaité illustrer et qui illustrent aussi mes recherches sur cette thématique du terrain à l'image. Donc, vous allez voir au fur et à mesure de ma présentation que tout est imbriqué, c'est en strates, toutes ces données, ces images sont très itératives l'une avec l'autre. Donc la photographie de gauche que vous voyez, elle a été prise lors de mes enquêtes de terrain réalisées donc en février 2020. Donc vous avez peut-être reconnu la bibliothèque Oscar Demeyer au Havre avec sa morphologie hyperbolique, tandis qu'au premier plan on observe donc une des participantes en train de réaliser une partie de notre méthodologie qui s'avère utiliser l'immersion virtuelle à l'aide d'un visiocasque. Donc sur l'image de droite, par contre, vous retrouvez une photographie des relevés sonores issus de nos recueils de données de la métrologie de nos terrains d'études. Donc nous avons mis en parallèle ces deux images car elles constituent deux points forts de la méthodologie qui consiste à lier donc ces données qualitatives qui recueillent le vécu de nos enquêtés et certaines données quantitatives du terrain d'études concerné. Et donc, vous allez voir au fur et à mesure, donc on va préciser un petit peu plus ces qualités d'image et comment en fait elles nous ont aidées et nous ont servi comme support et matière pour traiter notre analyse sensible de nos terrains d'études. Donc, avant, en fait, j'aimerais recontextualiser un petit peu les recherches, mes recherches. Donc, mon sujet de thèse, au final, ça questionne les variations des configurations sensibles dans les architectures ou morphologies curvilinéaires issues du numérique. En gros, j'étudie les architectures courbes qui sont issues des outils numériques et notamment, en fait, la continuité, la déformation de matière. Et donc, nous nous demandons si ces nouvelles morphologies, ces nouvelles architectures continues, issues donc de l'architecture numérique, génèrent de nouvelles résonances avec le système sensible du corps humain. Donc en fait, voilà, à travers ce sujet de thèse, nous souhaitons démontrer la pertinence d'une évaluation sensible de l'espace architectural qui s'applique, cette fois-ci non pas au jugement subjectif, mais à la construction d'une méthodologie d'analyse basée cette fois-ci sur l'expérience in situ. Donc c'est pourquoi en fait on a choisi de réaliser une thèse empirique et c'est là la question et c'est là vient cette question du terrain et de l'image bien sûr et c'est là que ça rentre en jeu. Donc tu peux changer de diapo s'il te plaît. Donc voilà, je vous présente en fait mes terrains d'étude aux formes courbes numériques et non numériques. Donc ça représente des géométries et des usages différents. Nous avons fait le choix afin de comprendre l'impact que peut avoir la continuité d'une forme sur l'expérience vécue d'un individu, de partir sur une base commune qui est la perception de l'espace courbe. Ainsi, la sélection de nos terrains d'études est basée sur la variation des types de courbures, morphologie architecturale, ainsi que la continuité spatiale et ambientale qu'elle génère. Donc aussi, ce qui a été vraiment important pour nous, c'était de sélectionner des terrains d'études qui soient en France pour éviter tous les biais linguistiques, des problèmes liés à la traduction, des différences culturelles lors de nos expérimentations, parce qu'on va vraiment se baser sur la question de l'image, mais aussi sur la question du langage, et notamment par les parcours commentés. Donc voilà, nous avons ces trois terrains d'études, un à Grenoble qui nous a permis d'être un terrain pilote, tester notre nouvelle méthodologie, savoir si ça fonctionne et avoir beaucoup d'itérations dessus. Et après, on a un peu plus voyagé, on va dire, pour terminer jusqu'à Bordeaux avec la fameuse cité du vin et cette morphologie complètement de la déformation de la matière qui nous permet d'être notre terrain d'études témoin sur les morphologies continues. Et donc voilà, donc pour mieux comprendre en fait l'utilisation de l'image pour étudier les perceptions sensibles dans ces terrains, nous avons en fait basé toute notre méthodologie sur la vidéo et la captation d'un parcours qu'on a réalisé en 360. Donc je te laisse, s'il te plaît, passer. Donc ce qui était après, ben, c'était comme mon collègue juste avant il l'avait vu, donc la vidéo à plat, sans lecteur. Et donc, par exemple, ici, c'est mon premier terrain d'étude que vous voyez. Donc c'est l'église Saint-Jean à Grenoble. Et donc en fait, la première partie, on est venu visiter nous-mêmes le terrain d'études. On est venu choisir un parcours qui, selon nous, était le plus pertinent. Et on est venu faire une captation 360. Donc vous me voyez ici en train de filmer. Donc ce qui est intéressant dans cette manière qu'on a filmé, donc on a réfléchi à la hauteur d'horizon de la caméra, on s'est mis aussi dans un angle en arrière pour être au maximum dans l'angle mort en fait, de la personne qui va visualiser, et on a fait en fait notre parcours commenté. Donc je te laisse par exemple entrer dans l'église, aller à peu près en plein milieu, comme ça on va voir... Et donc cette vidéo que je vous présente, en fait, je la mets après dans un visiocasque, dans un Oculus Quest, et ça permet de réaliser, et on parlera dans la seconde question, des parcours commentés, mais cette fois-ci en réalité virtuelle. Voilà. Donc là, je suis désolée, vu qu'on est sur une vidéo YouTube, la qualité est un petit peu est médiocre. Mais dans l'Oculus, la qualité est nettement meilleure. Et comme on voit, comme là on peut faire avec la souris, dès qu'il y a le participant, dès qu'il est avec le visiocasque, il est complètement immergé et à côté de moi, en train de faire le parcours. Et il visite en virtuel le terrain d'études.
Arrêtez le son parce que je t'entendais plus. Mais...
Oui, c'était juste pour dire, vous avez vu le concept et les images de chaque terrain d'étude, un parcours qui est filmé en 360, qui nous servira de média pour pouvoir faire notre méthodologie à double immersion.
Et le son, il est enregistré comment ?
Le son, il est enregistré avec c'est une vidéo que j'ai prise avec une GoPro Fusion. Donc, qui prend également le son, mais j'ai fait j'ai utilisé un zoom également pour pouvoir capter, et après il y a une retranscription sur et le lecteur de GoPro Fusion pour pouvoir refaire la vidéo en 360, parce qu'en fait on a les deux cellules qui sont le front et le back qui nous permettent de capter ce qu'il y a devant et à l'arrière. Et pareil, on a un son stéréo qui est remis. Donc en fait, avec le casque, on arrive quand même à jouer un petit peu avec ce son stéréo. Mais j'ai préféré prendre également avec un micro pour avoir un son un peu meilleur que la caméra.
Merci. On passe à Micia.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de participer à cette table ronde et je remercie notamment Laure pour son invitation. Donc je vais vous parler de deux types d'images, des images cartographiques et des images filmiques que je développe dans le cadre d'une thèse en recherche et création artistique qui a pour particularité, juste pour vous situer, la production en fait de cette thèse sera composée à la fois d'un texte théorique mais aussi de production audiovisuelle et d'un journal de bord qui, dans mon cas, est sous la forme d'une carte en ligne. Donc moi, je suis architecte de formation, et assez naturellement, quand j'ai commencé à appréhender mes terrains d'études, la première chose que j'ai faite, c'est d'assembler des photographies aériennes pour appréhender l'évolution de ces territoires. Et ce qui est apparu, ce que vous voyez à l'écran, ces cartes à trous noirs. Donc ici, on se trouve dans le Nord Cotentin. Et donc vous voyez des trous noirs donc à Cherbourg qui correspondent à trois sites nucléaires. Donc à Cherbourg, il y a l'arsenal, l'Axe, c'est l'usine de retraitement des déchets. Et à Flamanville, il y a deux centrales et le chantier de l'EPR en construction depuis 2007. Voilà, et donc quand j'ai assemblé ces cartes, moi je cherchais en fait des traces d'hébergement temporaire de la main-d'œuvre qui avait été mobilisée sur ces territoires. Alors évidemment, ces cartes ne montrent pas ce que je cherchais à l'origine. En revanche, elles soulignent les enjeux d'invisibilisation de ces territoires et elles montrent leur caractère hors-sol et offshore. Et donc, en réaction à ces cartes à trous noirs, j'ai commencé à fabriquer ma propre carte, qui est sous la forme d'une carte en ligne. À la base, c'était une carte que j'avais fait sur UMAP. Et maintenant, je suis en train de développer une plateforme dédiée et qui me permet en fait de spatialiser différents types de matériaux, à la fois des textes, des notes, des vidéos, du son et des films, qui correspondent à l'ensemble des matériaux que je mobilise dans ma recherche. Donc là, vous voyez, peut-être si on peut mettre pause.
Attends, je peux la relancer.
Parce qu'on peut voir aussi que là, on a un zoom sur le site de Flamanville. Et donc aujourd'hui, ces trous noirs, maintenant, ils sont pixelisés. C'est la version contemporaine du trou noir. Et ce que vous avez vu défiler, c'est l'évolution de ce chantier, qui sont des images qui étaient sur un poster qui était distribué à Noël aux ouvriers du chantier de l'Opéra. Pour rester donc sur ce territoire, pour montrer l'espace habité de ces zones, il me semblait évident qu'il fallait aussi développer une approche sensible et montrer le caractère sensible de cet habité. Il ne s'agit pas uniquement de faire un plan de mobilhome, de montrer où il se déroule, mais de voir aussi quelle est la vie qui se développe, quels sont les liens, à la fois fragiles mais profonds, qui se tissent entre ces différentes personnes qui viennent travailler sur ce chantier. On va voir ensuite un petit extrait qui a été tourné dans un bar qui s'appelle La Forgette, puisque pour tourner dans ces territoires un peu sensibles, il a fallu chercher les lieux où je pouvais tourner, qui sont différents lieux de vie. Donc il y a ce bar, qui est un lieu de rencontre entre locaux et travailleurs en déplacement. Dans la version plus longue, que vous avez peut-être vu passer à l'endroit où on a déjeuné, il y a aussi une petite cabane qui a été transformée en lieu d'esthétique, qui est un lieu de détente entre femmes, et dans différents campings où sont logés depuis parfois pour quelques mois et parfois pour quelques années. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le même mobilhome depuis 8 ans.
Voilà.
So this is only temper. I tell my family, this is only temper.
And you come back next week?
Yeah, I'll be here next week. I leave May 15th. I come back June 3rd.
What you want?
June 3rd.
Alan.
Oh.
That's a pity.
Et maintenant, donc, on passe à Séville.
Merci. Je vais parler de mes cartes comme images. Voilà, ce sont des objets cartographiques que je vais présenter ici. L'intitulé de l'intervention a changé, mais il y a une semaine. Mais je pense que ce matin, en regardant mes textes, je me dis que c'était pas le meilleur titre que je donnais à cette présentation, mais c'est pas grave, ça porte sous les cartes que je mobilise dans mon enquête de terrain dans le cadre de ma thèse. Et je voudrais parler de surtout leur fabrique, enfin comment j'ai fabriqué ces cartes et leurs apports et le protocole que j'ai construit qui sont dans lequel sont j'ai fait dessiner les cartes aux personnes que j'ai interrogées. Mais je me dis que je peux quand même faire une petite retour à mon parcours, pourquoi j'utilise ce genre de médias, parce que je suis dans ce laboratoire depuis 3 ans, mais j'ai un parcours qui a commencé en Turquie dans mes études en urbanisme et un master en design urbain qui a beaucoup déterminé mon échelle de travail qui est petite. Et l'échelle de l'échelle humaine et dans nos designs, un design urbain, on s'intéresse beaucoup à la question de perception et la question de pratique dans nos villes. Et Kevin Lynch, c'est un des urbanistes le plus connu qui a beaucoup travaillé sur la méthode de carte mentale, qui m'a beaucoup marqué parce que c'était la seule manière pour moi, pendant mes études, de sortir de cadre classique de manière de travailler en urbanisme dans mes études urbaines et aller chercher plutôt des registres plus personnels, plus subjectifs. Donc ça date un peu mon intérêt pour ce genre d'outils et qui révèle des rapports un peu subjectifs. Alors, juste une petite ajout aussi, je vais faire un master de recherche à l'EHESS. C'est le moment où j'ai commencé à me nourrir plus théoriquement sur l'usage de ce genre d'outils, cartographie alternative, cartographie subjective. Le rapport de la géographie. Plus la géographie de représentation qui a beaucoup aussi marqué encore les travaux que j'ai menés. Donc, mon arrivée dans la thèse, c'est une thèse dans le cadre d'une ANR Skyna, avec un cadre théorique qui a déjà défini. Et moi, je me considère comme quelqu'un qui est venu avec une méthode de recherche qui essaie de trouver un moyen de... faire dialoguer une méthode d'enquête et un sujet, un contexte qui est déjà défini. Donc c'est dans ce contexte-là que je place un peu les objets que je vais présenter ici. Comme je disais, oui, c'est des cartes sensibles. Je travaille dans ma thèse, et j'interroge deux types d'artistes, ceux qui produisent des street art et ceux qui produisent la bande dessinée. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les cartes dessinées par le street artist, donc une toute petite partie de mon terrain, et notamment pour parler de qu'est-ce qui raconte ces cartes et comment je suis arrivée à changer le protocole d'enquête dans lequel je le produis. Donc dans un premier temps, je veux bien montrer quatre cartes dessinées par les artistes dans pendant un entretien qui interrogeait leur lieu de pratique en ville et plutôt avoir une vision de la ville telle qu'ils vivent, telle qu'il est vécu, ressenti et représenté. Dans nos protocoles, il n'y avait pas des questions très il n'y avait pas des plutôt consignes restrictives sur le dessin. C'était une feuille blanche et qui voulait juste avoir des d'organisation de l'espace dans lequel il dessine. Ça c'était c'est une première carte. C'est plutôt une forme de ce qu'on appelle en anglais mind map, même si je n'avais pas utilisé le mot. C'était un détail à dire. J'utilise pas le mot carte pendant le protocole parce que la carte évoque une forme géographique et met les enquêtés dans une situation de je suis pas géographe donc je peux pas dessiner. Bref, donc je fais mon maximum pour laisser les dessinateurs libres. C'est intéressant de peut-être souligner que j'interroge les graffeurs ou des street artistes, donc qui ont une pratique très étroite avec le dessin, enfin l'usage de formes, des lignes. Donc j'avais quelques attentes, c'est d'avoir un résultat cartographique très expressif. Mais non, ça n'a pas tout à fait marché comme ça, donc on peut passer peut-être d'une carte à l'autre. C'était un street artiste qui n'est pas de Nantes, mais qui était venu à Nantes pour juste un projet. Je veux passer assez vite parce que je veux bien montrer en fait comment j'ai changé ma manière de produire ces cartes au fur et à mesure.
Je reviens quand même en arrière.
Non, je veux pas. Je préfère ne pas beaucoup commenter. Je veux bien juste prendre votre attention, tenir votre attention sur la forme que ça donne. Sur la ville de Nantes. Les questions sont toutes plus ou moins pareilles. Donc on obtient une forme de la ville, peut-être parfois bien définie, parfois pas bien décrite graphiquement parlant. Surtout, celle-là était peut-être plus difficile à entrer, celle-là peut-être mieux organisée graphiquement parlant, mais plutôt comme une, comme je le dis, mind map. Et quand je vais commencer à essayer de trouver leur place un peu dans l'analyse et épuiser leur expressivité en essayant en écoutant les entretiens enregistrés, en regardant les cartes, j'avais besoin de... extraire le maximum d'informations possibles, mais ça m'était difficile dans un premier temps. Donc j'ai décidé de changer le protocole et la prise de la vue des cartes. Celle-là, c'est pareil, je le juge plutôt peu expressive à projeter dans un contexte peut-être de ce genre de présentation pour montrer, partager. Donc, il doit y avoir une autre carte. Oui, après, c'est la deuxième par partie.
Il n'y en a pas de plus.
C'est toujours les mêmes cartes, mais...
1, 2, 3, 4. Et après, c'est de nouveau celle-là, mais commentée.
Oui, c'est ça. Je veux bien justement parler de celles qui sont commentées, enfin, qui sont mises avec les commentaires. Juste pour vous dire que, est-ce que... Je vais l'idée d'utiliser les commentaires pour rendre les cartes plus porteurs de sens, mais en même temps complétées par un type de légende qui sera les commentaires. Pourquoi les commentaires? Parce que en fait, même si j'avais demandé je leur avais demandé de faire une légende, mais c'était pas facile pendant un dessin, donc j'ai décidé d'utiliser les commentaires comme une légende. Et il y a des informations très intéressantes qui sortaient dans les genres que j'aimerais bien lire juste quelques-unes. Ce sont des informations qui parlent de manière de pratiquer le street art. C'est par exemple et le lieu où ils aiment bien pratiquer. Cette carte, je lis. Si tu veux, la visibilité, c'est soit en centre-ville, soit sur les axes-là, marqués en jaune. Les villes autour de Nantes, Couëron, Saint-Herbelin, Indre, ne comptent pas pour moi, mais c'est tout ce qui se passe, c'est sur l'île de Nantes. C'est là où sont ceux qui vont acheter ces affiches. Puis on comprend aussi le rapport de ce street artiste aux pratiques vandales, parce que le street art n'est pas seulement pratiqué dans le cadre très défini officiellement, mais voilà, des vandales aussi. Il y a des lieux qui sortent en fait dans les cartes qui sont propices à la pratique de vandale, mais aussi pratique officielle. Voilà, donc ça permet, le fait de regarder le discours avec les cartes permet de un peu qualifier les lieux un peu plus, plus un lien avec le pratique tel qu'il est exercé par la personne. Après, je pense que je vais... Je vais laisser l'autre vidéo pour peut-être la troisième question. Et juste pour répondre peut-être pourquoi utiliser ce genre d'outils. C'était pour deux raisons. Je suis très longue.
Et surtout, tu réponds déjà aux questions d'après.
C'est vrai? Oui, mais en fait, comme il y a plusieurs formes de cartes, je m'arrête ici, et puis je reviens sur la suite aux deuxièmes questions.
Voilà, deuxième question. Donc justement, la deuxième question, elle porte sur les méthodes. Donc en quoi prendre des images, ça révèle quelque chose du terrain? Et quelles sont les étapes qui mènent à la forme définitive des images que vous manipulez? Est-ce qu'il y a transformation de ces images captées? Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait de ces images prises sur le terrain? Donc, ouais, peut-être qu'il faut qu'on soit un tout petit peu plus rapide pour essayer de tenir le temps. Voilà, on enchaîne directement.
Ben, alors dans mon cas, comme j'ai dit, il y a une dualité de l'utilisation de ces images. D'une part, je les montre aux participants, et d'autre part, je les utilise avec des modèles mathématiques. Dans la première partie, pour moi, ce que ça révèle, en fait, c'est plutôt ce que ça permet, cette image, c'est de créer de l'information spatialisée. Parce qu'en la montrant à un participant, je vais pouvoir récolter son avis sur un lieu physique à travers cette image, qui du coup est une représentation de l'espace urbain, avec des proportions, des échelles qui sont assez proches de ce qu'on pourrait voir nous-mêmes quand on se déplace dans l'espace urbain. Donc seulement visuel, on n'a pas tous les autres aspects dont on peut faire l'expérience quand on se déplace dans l'espace urbain. Mais par ce médium, en fait, on va pouvoir créer de l'information spatialisée. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire. Et en fait, l'intérêt d'utiliser des images, c'est justement, quand on regarde cette carte-là, c'est la disponibilité des images dans les villes, dans les métropoles françaises, européennes, mondiales. Là, c'est une capture d'écran de Google Maps où on voit tous les linéaires bleus, c'est là où il y a des images le long de ces lignes-là. Des images qui sont prises avec un maillage assez fin. On a souvent des images tous les 5 à 10 mètres, voire des fois plus. En plus de ça, on a d'autres services qui nous permettent de disposer d'autres images toujours le long de ces linéaires, la plupart du temps, parfois dans des parcs. Et donc, du coup, l'intérêt de ces images-là, c'est qu'elles nous donnent des images de l'espace urbain, mais vraiment dans sa globalité. Il y a quelques lieux oubliés, bien sûr, mais on a une grande partie du lieu de l'espace urbain qui est disponible par ces images-là. Et donc, la deuxième manière dont on va utiliser ces images-là, c'est via des modèles mathématiques. Et l'une des choses qu'on peut faire, c'est extraire de l'information automatiquement de ces images-là. Nous, on voit l'image de la scène urbaine telle qu'elle est. On peut peut-être se replonger dans cette scène urbaine grâce à l'image. Mais quand on la donne à un algorithme, on peut aussi extraire les éléments sémantiques qui composent cette image-là. Ici, on voit un exemple. L'image, on peut la segmenter pour retrouver la présence de voitures, de transports publics, de feux rouges, de trottoirs, de végétation, etc. Et donc ça, par cette image de la ville, on peut créer de l'information qui est disponible nulle part ailleurs, qui n'est pas forcément disponible dans les SIG, qu'on ne peut pas forcément accéder via des orthophotos, donc des images satellites. Et donc avec ce point de vue piéton, en plus avec les échelles qui peuvent être différentes par rapport à d'autres images qui sont disponibles, on peut créer de l'information, ou en tout cas accéder à de l'information auquel on n'avait pas accès avant, et tout ça à l'échelle de l'espace urbain. En plus de ça, dans la plupart des services qu'on trouve, on a aussi un historique des images, donc on peut voir aussi les transformations par lesquelles sont passés un lieu. Alors, on n'a pas des images à des résolutions résolutions temporelles très, très avancées. Sur les services classiques comme Google Street View, c'est plutôt de l'échelle d'une image par an, une image tous les 2 ans. Mais quand même, on peut voir l'évolution du lieu depuis maintenant une quinzaine d'années que ces services-là existent. Donc on a en plus accès à ce type d'informations-là. Et donc, pour la création de ces images-là, ça, moi, je le fais pas. C'est les caméras qui le font et qui, en général, reconstituent ces images 360 que j'utilise. Par contre, moi, une fois que j'ai accès à ces images-là, la principale transformation que j'applique à ces images-là, c'est d'en recréer des images planaires comme on voit ici. Donc à la base, on a une image sphérique. Et ensuite, on peut appliquer des projections pour choisir une petite fenêtre dans cette sphère et obtenir une image planaire comme ça. C'est des images auxquelles on est plus habitué, qu'on peut prendre avec notre smartphone, par exemple. Et à partir de ces images-là, c'est là que je peux venir créer de l'information en demandant à des participants, posant des questions à des participants sur des sites web. Donc je donne accès à l'espace urbain via un smartphone ou via un écran d'ordinateur, tout simplement. Et puis, dans un deuxième temps, ces images-là, je vais les donner à des réseaux de neurones. Donc, on peut passer au visuel suivant. C'est la ligne du bas. Et donc là, pour les donner à des réseaux de neurones, finalement, ces images-là, ça ne va plus être que des tableaux de nombres pour ces réseaux de neurones-là. En fait, les images, on va les transformer un tout petit peu par rapport à l'image qu'on voit, mais finalement, ce qu'on va obtenir après, c'est juste des tableaux de nombres. Ces nombres-là, on pourrait leur associer une couleur et ensuite les afficher à l'écran et on obtiendrait les images du dessus, que nous, on interprète comme une scène urbaine. Mais finalement, les modèles mathématiques, en entrée, ce qu'ils prennent, c'est seulement ces tableaux de nombres. Ils ne voient pas autre chose que ça. Et c'est en exploitant la présence de nombres et leur position, est-ce qu'ils sont côte à côte, est-ce qu'ils sont alignés, etc., qui vont réussir à sortir de l'information, soit l'information sémantique comme j'ai montré avant, donc est-ce qu'il y a une voiture à cet endroit-là, est-ce qu'il y a un piéton, etc., soit arriver à trouver le lien qui peut exister entre la scène urbaine et l'avis des participants sur des questions de perception et d'ambiance. Voilà pour l'utilisation de ces images. On peut passer à la suite.
Lorraine ?
Ok, donc sur cette deuxième question, on va aborder ces fameuses méthodes et pourquoi en fait on utilise ça pour révéler des choses sensibles de notre terrain d'étude. Parce qu'en fait, donc, voilà, on a développé une méthodologie afin de recueillir des données sur les perceptions sensibles qu'éprouvent les usagers dans une architecture aux formes propres. C'est important de le rappeler parce que la méthodologie qu'on utilise, donc, c'est celle des parcours commentés, on va voir que c'est une variante, elle est utilisée pour l'urbain, l'analyse de l'urbain, alors que là, on avait vraiment une réflexion de ce fait. Comment on analyse au final un bâtiment, comment on analyse à l'échelle du bâtiment, où c'est beaucoup plus court par rapport en fait à des parcours qui se situent dans la ville. Donc voilà, pour cette table ronde, on a décidé de développer seulement avec vous la partie méthodologique qui s'avère être les parcours commentés à double immersion, ce qu'on a nommé les parcours commentés à double immersion, et les mesures sensibles appliquées à nos terrains d'études. Donc la méthode des parcours commentés à double immersion, au final, c'est la variante, c'est une variante de la méthode des parcours commentés théorisée par Jean-Paul Thibault. Donc cette méthode se décompose en deux étapes successives. La première est la visualisation du parcours que le participant devra faire en virtuel avec du visiocasque, et il doit décrire ce qu'il ressent à l'égal, au final, des consignes données pour la méthodologie des parcours commentés. Donc c'est les vidéos qu'on vous a montrées là juste avant. La personne, le participant, visualise cette vidéo, il est immergé et commente en fait le parcours à l'égal des parcours commentés. Et donc la deuxième étape, c'est vraiment juste après cette immersion virtuelle, le participant va faire la méthode des parcours commentés. Donc on va réaliser le parcours, cette fois-ci in situ, dans le réel, et il va devoir, à l'égal des parcours commentés, développer ce qu'il ressent et nous décrire le plus précisément possible ses sensations. Donc cette variante de cette méthode s'est construite autour de quatre postulats, et ça a construit vraiment cette méthodologie. Donc le premier postulat, c'est la mémoire des sens. En effet, l'homme a la capacité de faire appel à sa mémoire des sens, de les puiser, dans cette dernière et surtout de les respatialiser. Nous pouvons faire référence donc à la méthode des entretiens sur l'écoute réactivée de Jean-François Goyard, ou également, on aurait pu très bien parler aussi avec Nadine Ravel ce matin, sur cette mémoire des sens. Et dans notre cas, nous, on va utiliser la mémoire à court terme. Le deuxième postulat, c'est l'utilisation donc, de l'armature des parcours commentés théorisés par Jean-Paul Thibault, qui est marcher, percevoir et décrire comme base méthodologique. Cette méthodologie est en fait un très bon moyen pour obtenir des données sur l'expérience vécue dans le lieu. Elle a la capacité de convoquer le sensible à travers la parole. Et le troisième postulat, c'est la mise en situation extraordinaire. Donc pour celui-ci, nous nous basons sur les écrits d'Anthony Bécu examinant la pensée d'Austin dans le langage de la perception. Il fait part de l'intérêt pour les chercheurs des sciences sociales à provoquer la gêne, le doute, une incongruité, afin d'attirer l'attention sur une situation qui de base était de l'ordre de l'ordinaire. En effet, en fait, on va placer un individu dans une situation extraordinaire qui permettra de développer la parole sur certains petits détails qui habituellement étaient de l'ordinaire. Et le quatrième postulat, et vous l'avez compris, on l'a déjà visualisé, c'est la base de notre média sur les images, c'est l'immersion virtuelle. Parce que cette technologie est très utilisée, notamment même pour le traitement des phobies, parce qu'elle a la capacité de projeter une personne dans un espace virtuel que le cerveau traitera comme réel. Donc en fait, qu'est-ce qui se produit quand on fait une immersion virtuelle, un parcours commenté en virtuel, avant de faire en réel? Donc, dans cette méthodologie, ce qui est important de savoir, c'est qu'on accueille le participant aux abords du terrain d'étude. Il ne va pas le visiter avant, et ça, c'est très important. Et on commence l'immersion virtuelle, puis on le fait directement derrière le réel. Donc, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la technologie du casque de réalité virtuelle immerge le participant dans le terrain d'étude. Il effectue le parcours que le chercheur a préalablement choisi, enregistré en 360 et inséré dans le visio-casque. Le participant décrit son parcours le plus précisément possible. Étant en immersion, seul le sens de la vue et celui du toucher, et celui du sonore, sont stimulés. Et deuxièmement, le participant est plongé dans une illusion de la réalité. Son cerveau emmagasine toutes ces informations sensorielles perçues lors de son parcours virtuel. Donc ces informations seront en partie fausses, car le corps du participant ne saisit pas les bonnes informations vu qu'on est en virtuel. Exemple, le participant croit monter une pente car il le visualise à travers le visio-casque, mais pourtant il ne l'effectue pas dans la réalité. Il reste debout, à côté, en train de visualiser en fait qu'il est en train de marcher. Donc après, suite à cette expérience en immersion virtuelle, le fait de refaire directement le parcours, cette fois-ci en réel, provoque un certain conflit entre ce qui a été perçu en virtuel et ce que le participant saisit dans le réel. On vient créer justement une dualité. Donc, par exemple, reprenons notre exemple, le participant monte une pente. Le cerveau, après l'expérience virtuelle, a mis en mémoire ce qu'il a vu et les sensations qu'il a perçues à ce moment-là. Dans notre exemple, c'était au final rester immobile. Le fait qu'en réel, il vient utiliser ses muscles pour monter cette pente provoque alors une certaine dissonance avec ce que le cerveau avait en mémoire pour la même sensation. Nous provoquons alors par cette dualité cet effet de doute, d'incongruité et de situation extraordinaire. Donc, troisièmement, donc cette génération du doute et cette dualité entre le réel et le virtuel va chez le participant provoquer une attention plus prononcée des perceptions sensorielles perçues. Et c'est cette situation incongrue dans laquelle nous plaçons le participant qui va développer la parole sur ces perceptions sensibles, ordinaires, qui étaient de l'ordre avant de l'implicite. Donc nous avons vraiment un discours sur les perceptions sensibles de manière spatialisée. Donc voilà, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les limites. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce matin. Nous, on vient utiliser les limites de l'outil virtuel. Par exemple, on retrouve dans les discours les sensations de manque d'ancrage au sol, la réverbération du son qui n'est pas la même chose, la perception des distances en profondeur, ou le rapport au corps à l'espace. Donc, bref, en fait, toutes ces lacunes liées à l'outil, pour nous, en fait, au final, c'est une vraie aubaine puisqu'elles vont venir créer le doute et permettre la comparaison et développer la parole. Et je pense que j'ai un peu dépassé le temps, non?
C'est parfait.
Ok. Non, mais ça, on va le faire. Je pense qu'on n'a plus le temps peut-être pour parler. Moi, en fait, d'à côté, c'est mes médias. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes pour parler de ça. Au final, bon, j'ai l'impression d'être trop longue. Donc, non, qu'est-ce que je peux dire si tu reviens en fait sur la première, les parcours? Parce qu'au final, on a toutes ces données qu'on a récoltées, celles encore d'avant. Et donc, on voit très bien donc, la différence entre l'immersion virtuelle et l'immersion réelle. Et ce qu'on a vu, celle juste après, celle qu'on a. Et en final, on a fait le choix de traiter nos perceptions en fonction des perceptions sensorielles qu'ils ont évoquées lors du parcours. Donc on les a divisées en 8 perceptions par rapport à notre littérature. Et donc on voit très bien qu'en fait on a beaucoup moins de stimulation sensorielle dans le virtuel que par rapport à l'institut. Et bien sûr, on faut faire attention, on ne dit pas qu'on discrétise les sensations. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à ce moment-là, dans le parcours, la personne a évoqué ces sensations-là. Donc ça nous permet juste de savoir à quel endroit, à quel moment le participant a évoqué cette perception. Et donc là, elles sont non situées. Et si tu passes sur la diapo juste après, par exemple, dans nos thèses, on vient étudier un rayon courbure par rapport à une rampe. Et donc, on est venu les comparer, en fait, tous nos discours, qui sont au final maintenant retranscrits par cartographie, on est venu les comparer les unes par rapport aux autres et faire une sorte de timeline en fonction de où ils se situaient dans la rampe et d'observer, au final, quelle perception a été évoquée et comment... s'il y a des... si on retrouve des points communs, et par exemple, on voit très bien que dès qu'on arrive au niveau de la rampe, au niveau de l'ascension, on a la perception de kinesthésique et propriété sélective qui est vraiment développée. On nous évoque la sensation des muscles, l'essoufflement, la sensation physique de devoir monter cette rampe. Et ça, et je conclurai là-dessus, si tu passes, et c'est là où c'est itératif, c'est qu'on se rend compte que ces cartographies et ces images qu'on a avant sur le sensible qui est lié à la parole, elles sont directement liées à ces mesures de la métrologie, ces mesures du sensible, du site, où justement on est venu cartographier parce qu'on savait pas quoi faire au final avec toutes ces données du sonore, ces décibels, ces taux de luminosité, et au final j'ai décidé de cartographier chaque terrain avec les intensités lumineuses, sonores, les changements altimétriques et de composition de sol, pour pouvoir après, avec mes perceptions, mes cartographies, mes parcours décortiqués, de pouvoir faire des superpositions, regarder qu'est-ce qui est responsable au final entre le morphologique ou l'ambiental du discours des participants. Et voilà, et désolée d'avoir pris du temps.
Oh, super, merci. Missia.
Alors, donc, moi, pour vous présenter ces questions de méthodologie, donc j'ai une méthodologie et des films qui se construisent. Enfin, je n'ai pas de protocole. Les films viennent se construire au fur et à mesure, et le dispositif filmique mobilisé vient s'adapter aux contraintes du terrain. Donc là, pour vous présenter cette question-là, je vais m'appuyer sur un autre terrain d'étude. Qui sont des zones économiques spéciales en Pologne, des zones de production sur lesquelles des entreprises bénéficient de lois fiscales plus avantageuses que celles pratiquées dans le reste du pays. Et donc j'ai commencé une enquête filmique en novembre 2021. Et l'objectif, c'était donc d'aller voir cette zone et de filmer à la fois des lieux de production et des lieux de vie. Et donc une première zone où je me suis rendue, c'était une zone économique spéciale où était implantée l'entreprise LG, qui est une entreprise coréenne, et ses sous-traitants. Et donc je m'y suis rendue en bus, j'ai pu marcher tout autour des bâtiments. Et au moment où j'ai sorti ma caméra pour filmer en fait, les différents arrêts de bus, qui avaient tous le nom des différentes entreprises LG, les sous-traitantes, à ce moment-là, on m'a signifié qu'il était interdit de filmer et qu'en fait tout ce territoire appartenait à l'entreprise LG. Donc de cet échec cuisant, ce qui est apparu en premier lieu, c'était déjà une appréhension des limites et des frontières qui n'étaient pas perceptibles sans cette approche par le film. Et dans un deuxième temps, je me suis tournée vers d'autres images. Et donc les premières images que j'ai trouvées, c'est une vidéo YouTube en fait tournée par un ouvrier ukrainien qui se filmait dans l'usine autour de laquelle je venais de me faire virer. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est génial, c'est les images que finalement je cherche à produire, elles sont déjà existantes, et en plus elles sont produites par les personnes qui travaillent et qui vivent dans ces espaces. Et donc de cette vidéo, finalement, je me suis aperçue qu'il y avait des centaines de vidéos qui étaient mises en ligne sur YouTube et qu'il existait aussi des chaînes de personnes étrangères qui venaient travailler en Pologne et qui, en fait, documentaient leur parcours migratoire et leur lieu de vie, toute la vie sur place. Et donc c'est là qu'est aussi intervenu aussi mes émotions de spectatrice et que je me suis orientée vers trois chaînes réalisées par Becca, Carrie et Joy, qui sont Becca que vous voyez là, qui est nigériane, Carrie zimbabwéenne et Joy qui est philippine. Et j'ai commencé, avec leur accord bien sûr, un travail à la fois de recherche et d'analyse et de création de films à partir de leurs vidéos. Je vous propose de regarder un petit extrait de 2 minutes.
In the night I packaged, because I took 12 hours, in the night I packaged up to 10,000 cookies, like put it in a box. And to package the cookies, you have, it's a machine, it's moving, so you're just picking it and putting it, and you're using your two hands, and you have to be fast, because if you miss a box, a woman comes and starts screaming at you. You're under pressure and someone comes and starts screaming at you. Oh my God, like when I did this job, I was like, no way a human being is working like this.
Hey guys, good morning. So today I'm going to share with you a day in my life as a factory worker. I woke up at 3:30. It's still very dark outside. Now I'm just packing up so that we can leave.
The first thing that you need is socks because the factory is very cold. I actually carried two because the first time around I carried one. There wasn't enough. My feet were cold, so I just take two with me. And then I definitely need some gloves. Not all the time, but sometimes it's just safe to have them around. A sweater is a must, and the next thing is this apron. This is me on break time. I'm actually cleaner than most days, but yeah, my uniform could be worse.
Merci. On passe à l'extrait suivant.
La deuxième question, voilà, je commençais à un peu répondre. Oui, en quoi prendre des images révèle quelque chose de terrain. En fait, c'est oui, je montrais pour la première question, j'ai montré les deux premières étapes de prise de, enfin, fabrication de dessins. Et le troisième, c'est ça va répondre à la fois à la question de la forme définitive des cartes et aussi et pourquoi décider sur cette forme des cartes. Parce que c'est beaucoup plus parlant sur le terrain dans lequel je travaille et sur lequel les street artists produisent. Donc, en fait, la carte, pour moi, c'était un moyen très intéressant de révéler plein des caractéristiques intéressantes sur la ville de Nantes et surtout des discours portés sur la ville qu'on n'entend pas forcément dans des registres très officiels. Parce que il y a une politique culturelle qui est très très forte à Nantes et c'est un terrain très dynamique en termes d'activité artistique et culturelle. Et le discours, quand on entend les discours des pratiquants de street art, mais pas, enfin, c'est pas forcément le plus important ce qu'ils disent, mais c'est surtout à entendre un discours sur une ville qui est en transition, en permanence, enfin depuis 30 ans, et surtout un discours qui se concentre beaucoup sur une zone qui est associée à la création et la culture. Pour moi, c'est devenu un peu un objet plus important que j'avais défini avant. C'est-à-dire que la carte est à la fois médiateur de discours, mais en même temps producteur d'un récit sur la ville. Mais un récit que je peux recueillir à partir des acteurs qui vivent à la fois dans le terrain et qui participent en même temps à son fabrique, quelque part. Donc, c'est pas vraiment mon terrain d'aisance de parler des images que je produis, mais je préfère plutôt montrer la vidéo et après revenir sur le... Voilà, qu'est-ce que ça apporte, en fait.
C'est Paradis de Nantes, je pense, que je vais faire un tour. Parce que c'est là où je peins... vu que c'est un quartier qui est en... Je peux t'expliquer les deux en même temps.
Bien sûr, bien sûr.
Vu que c'est un quartier qui est en pleine mutation, ouais, et qui sont en train un peu de tout démolir, ouais, mais ça fait un beau terrain de jeu pour moi, ce que j'aime faire. Okay. Tu vois. Donc...
On va reprendre un Nantes.
Ok.
Donc ça devrait être... Donc là, voilà. J'ai une appui de 80. Ensuite, on va faire ça. On va schématiser. Hein.
Tu sais que là, tu as tout le chantier du nouveau CHU,
ouais,
qui est par là, tu vois, où là, ça ouvre beaucoup de possibilités pour peindre,
ouais,
partout ici, tu vois.
Ouais.
Donc ça, c'est sur l'île, dès qu'on ne sait pas trop où aller, le dimanche, quoi, on va zoner sur toute cette zone-là,
ouais,
et du coup, on trouve toujours un petit truc à faire, tu vois.
Okay.
Parce qu'après, il y a aussi l'atelier La Maison du Corps, qui est là, où je passe beaucoup de temps. Et du coup, je pars souvent aussi à la Maison du Port, et c'est un endroit assez central parce que bah, je suis tout le temps là,
oui,
quasiment. Et que du coup, c'est sur le même quartier, sur l'île. Voilà, aussi, on a la grande. Les anciennes voies ferrées.
Oui.
Où bah, là, tu as tous les murs, pareil, qui sont autorisés, les murs du Floride, là où on peut peindre.
Mm-hmm.
Voilà, là, on est souvent aussi ici.
On va faire des points. Donc on va dire que là, on va avoir ici un centre-ville. On va l'appeler historique. Et là, on va peut-être l'appeler quartier de la création, c'est comme ça que ça s'appelle, moi ça me va bien. Mais on va l'appeler le... Second centre-ville, moi c'est comme ça que je le vois.
Mmh.
En termes d'attractivité.
Mmh.
Ok. Là, on va pouvoir délimiter. Ça, c'est cet espace.
Tu me diras quand même.
Tu peux faire tout ça à pied.
Oui. Donc c'était un essai de voir deux cartes en train de... Enfin, en fait, créer un dialogue entre deux cartes qui portent les expériences se concentrer sur le même lieu. C'est un cours de réflexion, parce que la question de comment les monter et comment les couper et comment décider quels sont les paramètres de dialoguer ces deux cartes. Est-ce que c'est la forme de la ville qui sera au centre, ou est-ce que c'est plutôt le discours porté sur les zones de cette ville? Donc voilà, ça continue un peu à être au centre de ma réflexion au fur et à mesure que l'analyse avance. Je ne vais pas prendre plus de temps, je ne suis pas invitée.
Non, peut-être qu'on peut... montrer les photos de la troisième question, mais avec juste une phrase par personne, pour qu'on puisse s'ouvrir aux échanges.
Ouais.
Ça vous va?
Oui, c'est
bien. C'est très difficile, mais... parce que je trouve que c'est mieux qu'il y ait des échanges, parce que sinon... Donc en fait, la règle du jeu, on monte les images, une phrase.
Ah, Benjamin, n'ayant pas d'image, peut-être qu'il a droit à deux phrases.
Deux phrases. Donc la question, peut-être qu'on va rappeler la dernière question qu'on leur a posée, hein. C'est quelle est la destinée de ces images? À qui s'adressent-elles, hein? Quels sont leurs statuts, leur rôle dans votre processus de recherche? comment s'articule-t-elle au travail classique de communication de la recherche, qui passe avant tout par l'écrit habituellement, mais en gros, on revient. À qui elles s'adressent ces images ?
Pour moi, je l'ai déjà plus ou moins répondu, il y a une dualité, c'est dans un premier cas à des participants, ce qui va me permettre de créer de la donnée spécialisée avec leurs avis. En fait, ils vont juger ces images, et en les jugeant, nous, notre hypothèse, c'est que ça va révéler quelque chose du lieu qui se cache derrière cette image. Et puis, la deuxième destinée, c'est d'être mangé par des algorithmes, finalement, qui vont produire aussi de la donnée spécialisée à partir de ces images-là et des modèles entraînés, soit on entraîne nous-mêmes, soit on utilise dans de la littérature. Voilà, double destinée pour mes images.
Merci. Lorraine ?
Alors, moi, je ne sais pas si tu as l'image, en un mot, ça permet de faire une synthèse et de comprendre quelles sont les corrélations entre la perception des seuils et limites, donc des espaces architecturales, avec la morphologie et les ambiances. Et donc on a fait tout ce processus avec les étudiants de master. Donc, je ne sais pas si tu as dit, mais justement, on a essayé de faire des parcours commentés avec des cartographies sur un site, et ils devaient me décrire de manière... me décrire en fait, en fonction de leur cartographie sensible, justement, le projet architectural, mais cette fois-ci de manière visuelle.
Merci. Messia.
Alors, moi, l'objectif principal de ces films, c'est de les faire dialoguer d'une part avec des personnes, les personnes concernées qui ont été filmées, et aussi des personnes qui peuvent traverser des situations similaires. Et donc de les projeter sur des espaces pour aussi commencer un dialogue avec un peu un retour au territoire et de les mettre en circulation et en réseau.
Merci.
Peut-être juste tu peux nous décrire ce qu'on voit.
Ce qu'on voit c'est une projection d'un film polonais tourné dans une zone économique spéciale que j'ai projeté à des ouvriers que je filmais sur un chantier du Grand Paris. Et ce qui a permis d'ouvrir une discussion aussi sur les parcours. Certains ouvriers avaient déjà travaillé en Pologne.
Et enfin, Céline.
Ce travail va, je pense, contribuer beaucoup à cette recherche qualitative qui traite ce type de cartographie, donc déjà pour le monde universitaire. Mais en même temps, comme ça parle beaucoup de la ville, une ville précise, et parlée par deux milieux d'artistes, je pense que ça soit aussi un dialogue entre les artistes qui cohabitent sur le même espace et qui a des visions sur la même ville. Et aussi pour la ville même, je pense, je pense que j'aimerais bien pouvoir faire rentrer ce récit sur la ville dans le contexte urbain piloté par le pouvoir public. Mais c'est mon objectif de chercheur à la fin de cette recherche.
Merci. Et peut-être ce sera peut-être dans les réactions du public, des gens que vous pourrez compléter ou qui veut réagir à ces sables d'images.
Est-ce que vous voyez un rapport au langage dans ce que vous utilisez les images ?
C'est une question simple.
Peut-être la consigne, si on pouvait plus entendre, ça serait bien.
Ah, plus fort. Si, est-ce que, quel est le rapport au langage ? C'est ça.
Est-ce qu'il voit qu'il y a un rapport au langage ? Ou est-ce que vous considérez les images comme un langage ? Pour mettre un peu en résonance avec la table ronde d'avant.
Moi, je veux bien.
Les images pour vous, c'est un langage aussi. Mm-hmm. C'est une forme de langage, ou non, pas du tout.
Si je me permets. Je ne sais pas si ça va répondre directement à votre question, mais la carte, pendant l'entretien, servait énormément de parler de lieux, mais racontés par son pratiquant, enfin celui qui dessine, il s'exprime avec son propre langage qui n'est ni géographique, ni universitaire, ni voilà. Mais ça permet aussi de recueillir beaucoup en fait le langage de son milieu. Enfin, comment je peux dire? Par exemple, il parle d'un mur, dans mon cas, d'un graffeur. Ils utilisent les mots que je ne maîtrise pas, comme toyer, ça veut dire dessiner sur la fresque de quelqu'un d'autre, d'un autre graffeur. Donc ça apporte énormément de des nouveaux termes que je ne maîtrise pas, et ça me permet aussi d'entrer davantage leur milieu et le code de leur milieu. Donc je pense que ça m'a évoqué tout de suite ce détail.
Moi, je veux bien répondre aussi. Ouais. Tout à fait. Les images, dans mon cas, les images filmiques, c'est tout à fait un langage. Parce qu'au-delà des mots et d'un discours qui peut être porté par ces films, c'est aussi des regards, des mouvements, des lumières aussi. Et qui permettent de s'adresser à d'autres sens aussi, à la personne qui la reçoit par rapport à un texte. Moi, je le vois par rapport au parallèle que j'ai entre ma thèse écrite et ces films-là. C'est pas du tout les mêmes éléments que je vais développer via le texte et via l'image. Donc il y a un langage propre, je crois, au film.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter. De mon côté, ce sera peut-être plus terre à terre. Pour moi, les images, c'est surtout une représentation de l'espace physique. Je ne vois pas vraiment de langage derrière, en tout cas, mon utilisation des images.
Il met des mots quand même.
D'ailleurs, j'en profite parce que j'avais noté sur ta première image, ton 360 degrés,
c'est ça.
J'avais l'impression que plus on utilisait 360 degrés, plus on voyait la dimension surfacique de l'image. C'est comme paradoxe, c'est-à-dire que la photo seule, bon, on en oublie peut-être sa dimension surfacique, mais à partir du moment où on se balade à 360 degrés, en fait, on a vraiment paradoxe, elle reprend sa surface, quoi. Une surface, et plus sa 3D presque.
Oui, c'est vrai. C'est peut-être une question d'habitude aussi. On a plus l'habitude de voir des images planes et de se projeter dans quelque chose parce qu'on a pris l'image nous-mêmes. Je ne saurais pas dire.
Elle a d'autres réactions. À Grenoble, vous prenez la parole aussi, quand vous voulez.
Ah, ben il y a peut-être déjà quelqu'un dans la discussion d'ailleurs. Oups, d'accord.
On a du temps.
On peut poser une question encore. C'est bien.
C'est plus de la remarque. Je trouve extrêmement intéressant le travail de Lorraine. Je suis obligé de prendre une lentille sèche. C'est ça, c'est pas toi?
Non, moi c'est Mitya.
Ah bah, tu vois.
Mais vous êtes que quatre, hein.
J'arrive de me méfier de moi-même. Alors, c'est Mitya. Non, mais franchement, je veux mettre l'accent. Enfin, moi, je trouve qu'il faut un petit peu dire ce qu'on pense, quoi. Et je trouve qu'il y a une très, très grande différence et un apport très, très grand entre ce que tu proposes comme démarche et les trois autres, finalement, à des titres très différents, qui sont des démarches où je crois qu'il faut quand même vous dire que, en tout cas dans les travaux du Cresson, on a quand même réfléchi à, par exemple, l'usage des cartes mentales ou des façons de faire. Et je crois que ce serait intéressant que vous repreniez, que vous réinterprétiez des choses qu'on a faites il y a 30 ou 35 ans. Par exemple, sur la carte mentale, il y avait un grand débat au début, c'est juste une information comme ça, mais parce que c'est vraiment ton sujet, sur les cartes mentales sonores. Il y avait une bagarre terrible parce que, de toute façon, on critiquait les cartes mentales, on critiquait Kevin Lynch, l'imaginativité, pour toutes sortes de raisons qui ont été consignées qu'on peut retrouver. Et moi, j'ai relancé les cartes mentales sonores. Et alors, on disait, mais c'est pas possible. Et le sonore, c'était génial parce qu'on disait, décide-moi ton quartier sonore. Je ne peux pas, c'est exactement ce que tu as dit, je ne peux pas dessiner du son, quoi. Je peux même les merdes, toi, etc. Et puis, il y avait d'autres gens, je me rappelle, me fait agresser une fois terriblement par quelqu'un, mais les cartes sonores, ça ne marche pas, ça ne donne rien, quoi. Ça ne donnait rien parce que les cartes, en effet, n'ont aucun intérêt. Quand tu les projettes, on voit bien, c'est des trucs, en plus, c'est des artistes, ils dessinent comme des cochons. Enfin, c'est... Mais par contre, c'est ce qu'il raconte qui donne. Donc ça, c'est la clé de toutes les démarches, que ce soit les parcours commentés, les cartes sonores, les observations récurrentes, l'écoute réactivée, enfin, toutes ces techniques qu'on dit, qui consistent à passer par un médium particulier qui fait parler les gens. Et donc c'est l'usage de la carte, là c'est le dessin, qui fait parler les gens. Quoi. Et ce que tu recueilles, et toute la richesse de ce que tu as, qui est extrêmement intéressante par contre, ben, c'est ça, c'est bien du fait de faire exprimer quelque chose. Et alors après, moi, j'insiste un petit peu sur ce travail-là, parce que je trouve qu'il exploite les formes contemporaines et nouvelles de production de l'image, qui renvoie, je ne sais plus, je crois que je l'ai dit hier, par rapport à la pléthore, la prolifération d'images amateurs qui sont produites à des échelles et à des vitesses complètement incommensurables, et par rapport aux grands problèmes que cela pose au niveau de l'information, en particulier sur tous les scoops événementiels du monde, quoi. Et donc dans les guerres, et on sait aujourd'hui que les images produites ne sont plus produites par des professionnels, mais souvent par des amateurs. Enfin, qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui à intervenir. Les artistes qui se saisissent de cela, je trouve que dans nos champs qui se prétendent scientifiques, qui cherchent à objectiver toutes les choses, on devrait aussi s'en préoccuper sur des manières de ralentir ces images, de les remettre en scène, de leur redonner du sens, d'images qui sont tellement fugitives qu'elles n'ont de sens que celui de la propagation, du hasard, du buzz, parce que mais au prix de fake news absolument terrible et d'un contrôle absolument impossible. Ça. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant, ce travail-là, justement, qui passe par captation de choses qui existent, une remise en scène, une remise dans d'autres contextes, enfin, je trouve ça génial, et qui exploite finalement les mêmes techniques que celles que nous avons créées il y a une trentaine d'années. Quand tu réutilises un film d'une zone économique cachée, etc., dans un chantier parisien, et ça fait reparler des gens, etc., et par contre, ça redonne du sens à des choses qui ne sont plus. Je ne sais pas si tu le connais, moi j'ai trouvé le nom de quelqu'un que je parlais hier, Émeric Luisset. Ben, je pense que ça m'intéresserait beaucoup. C'est un type qui travaille donc sur les images de guerre. Et c'est la même chose, il récupère, il exploite, il chope et il les republie et il en fait des instruments même de remédiation et de réintroduire de l'information ukrainienne dans le territoire. Il y a des choses comme ça. Ça va, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de piste. Hier, il y a eu une autre intervention qui a un peu de sens. Je trouve que c'est très important ce qui s'est passé ces deux jours.
Est-ce qu'il y a des frustrations dans la salle de ne pas parler de
moi? Je voudrais juste rebondir peut-être sur ce que disait Pascal. Parce que ce qui m'a beaucoup marqué dans toutes vos interventions, je crois, c'est justement la manière dont les méthodes se construisent de façon itérative, et qu'en fait la lacune d'une image, bah, c'est le potentiel pour une autre image, et que peut-être qu'une image est claire, est-ce qu'elle obstrue, on arrive à le voir en déplaçant un petit peu la focale à chaque fois, ou en passant de l'image fixe à l'image animée, et en fait, voilà, enfin, moi je trouve ça hyper intéressant, ce côté mosaïque finalement, d'approche par l'image, qui peut-être montre quelque chose mais en cache tout autant, et donc on doit multiplier un petit peu ces points de vue ou ces focales. Et je me dis que c'est peut-être du fait aussi d'être rentré dans les matériaux, de vous avoir fait demander, enfin, de vous avoir posé très concrètement la question de la matière et comment on s'y prend avec cette matière visuelle et sonore. Et je me dis que c'est ce cheminement-là qui est le propre aussi de la recherche, quoi, et de la construction méthodologique de la recherche. Ce serait super intéressant de le voir à la fin aussi, dans les questions de restitution, comment on chemine et comment une image, voilà, se transforme et puis s'éclaire progressivement. Et bon, c'est plutôt une invitation à poursuivre, à nous montrer cette mosaïque en fait.
Ben merci. On se donne combien, non pas 10 minutes de pause, mais 7.
Ouais.
J'en profite juste pour lancer un petit message de « C'est moi qui récupère les formulaires de droit à l'image et aux enregistrements » et les intervenants qui ne l'ont pas signé, il faut les... Enfin voilà, on va vous donner les papiers.
Donc,
c'est
dans 10 minutes, mais vraiment maximum, on se retrouve là, parce que sinon, on ne pourra pas entendre Thomas et Laurent. Tout de suite. Merci.
Merci.